le théâtre, la performance, et j'en oublie certainement. Donc on va commencer un petit tour de table avec Séverine Drecourt-Fredrickson, qui est poète, qui a investi à peu près tous les domaines de la poésie et de l'écriture, de la traduction à la chanson, et qui s'est illustrée à la Maison de la Poésie à Paris, où elle invite chaque mois un poète et un chanteur. Elle a traduit chez Landskine un très beau livre islandais qu'elle a titré « Oursin et Moineau » de M. Sjón. Je prononce bien ? C'est Séverine Drecourt-Fredrickson.
Bonjour. Je ne sais pas tellement par quel bout prendre les choses. Dans l'intitulé de cette table ronde, j'ai vu quelques mots qui font sens dans ma démarche en tant que poète. Notamment, le mot scène. Je peux juste parler de ce qui, moi, m'a conduit à mettre au cœur de mon travail la scène, alors qu'a priori, j'écris une poésie qui est plutôt du côté du livre. Je ne suis pas dans le champ de la performance ou du sonore. Enfin, je ne l'exclus pas, mais ce n'est pas là que je m'inscris. En revanche, j'étais toujours stupéfaite d'entendre les gens à qui je faisais part de mon travail. Quand je dis les gens, ce n'est pas les gens du milieu justement de la poésie, les autres, me dire « Ah, je ne lis pas de poésie ». Y compris des gens qui étaient par ailleurs des lecteurs et des gens très curieux de la chose littéraire, ils ne lisaient pas de la poésie. Et après avoir fait ce constat quand même pendant des années, je me suis dit « Bon, les gens ne lisent pas de poésie, mais peut-être peuvent-ils l'entendre ou y avoir accès, en tout cas par un biais qui n'est pas celui du livre ». Et par ailleurs, j'avais un parcours aussi de musique, enfin en tant que chanteuse, que je dissociais totalement de mon activité de poète. Je chantais d'un côté des chansons lors de concerts sur scène, et puis il m'arrivait de faire des lectures des textes qui étaient dans mes livres. Et ces textes n'étaient pas les mêmes. Et puis petit à petit, j'ai essayé de réunir les deux en faisant des espèces d'entrelacs qui étaient des lectures avec des chansons, enfin des textes qui se répondaient. C'était pas du tout une mise en musique de textes littéraires, mais c'était des textes pour la chanson qui avaient quelque chose à voir avec les textes du livre. Et je me suis rendu compte que des gens qui venaient voir mes chansons finalement découvraient mon travail d'écriture alors qu'ils n'avaient jamais réussi à le lire ou jamais eu l'envie. Et que ce travail leur parlait quand même un peu, qu'ils le trouvaient très étrange, mais que ça ne les rebutait pas, qu'ils n'y comprenaient rien, mais que ça n'était pas un problème. Et forte de cette expérience-là, je me suis dit que ça valait le coup de l'extrapoler à la poésie en général et aux poètes du livre et de se servir de la scène pour sortir de la page ces textes qui a priori ne sont faits au début que pour la page, hein, puisque comme je disais, je ne m'inscris pas dans le champ des poètes d'emblée performeurs ou qui écrivent vraiment pour la scène. Et c'est dans cette optique que j'ai mis en place à la Maison de la Poésie les Fabriques, qui sont donc c'est un cycle mensuel qui fait se confronter un poète et un chanteur qui ne se connaissent pas, qui ne se choisissent pas et à qui je demande de partager un moment scénique d'une heure et qui le font vraiment comme bon leur semble. En faisant ça, ça fait une saison que ça dure. Je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien, c'est-à-dire que les gens effectivement qui venaient voir ça pouvaient vraiment découvrir des poètes, puisque souvent ils venaient voir les chanteurs et ils découvraient ce que pouvait être une écriture poétique contemporaine, que s'ils devenaient un peu fidèles des Fabriques, ils allaient découvrir sur une année tout ce que pouvait recouvrir le mot poète. Et moi je tenais à garder vraiment ces deux termes poète et chanteur parce que justement, ils ne veulent pas dire grand-chose. Et je voulais montrer un champ poétique dont les bornes sont quand même très éloignées, parce qu'il peut y avoir des poètes qui sont du côté du sonore, qui sont invités à ces fabriques, mais aussi des poètes qui sont dans une lecture très nue. Et voilà, l'idée était de montrer à un public venu voir autre chose ce qu'était la poésie. Donc c'était une façon d'ouvrir par la scène la poésie à un public d'augmenter sa visibilité. Il y a une autre scène aussi, parce que c'était vraiment cette volonté de sortir du ghetto, enfin, je pense qu'on en a beaucoup parlé là, les derniers temps, du ghetto, des poètes, et de, enfin, comment ouvrir, comment amener la poésie à des gens qui n'en sont peut-être pas lecteurs, mais qui peuvent quand même savoir un peu de quoi il s'agit et voir apprécier. L'autre scène, c'était celle du théâtre, alors que je côtoie pas, contrairement à celle de la chanson, mais je travaille à la Comédie Française, je fais des ateliers. En fait, je fais écrire les acteurs, les jeunes acteurs, les élèves comédiens, en partant du principe que le passage par la langue poétique est un passage absolument fondamental dans le parcours d'un acteur, et que d'avoir un moment expérimenté en écrivant, parce qu'ils ne connaissent rien la plupart du temps, les acteurs, des écritures contemporaines poétiques. Et le pari, c'était qu'ils avaient quelque chose aussi à voir avec ces écritures, et que ces écritures pouvaient leur apporter un plus ensuite dans la façon dont ils vont réinvestir et lire les textes dramatiques. Donc j'ai proposé à la Comédie Française de faire ça, de faire écrire les jeunes élèves comédiens. Et c'est un projet qui va être reconduit, et j'espère du coup faire entrer ces écritures du chant contemporain à la Comédie Française, qui est pas forcément, qui est ouverte sur des écritures dramatiques contemporaines, mais voilà, qui connotent beaucoup d'autres choses. L'idée, c'était que d'utiliser.
On va laisser la parole un peu aux autres, parce qu'on n'a qu'une heure et qu'on est cinq.
Je suis désolée.
Hein. Julien, tu veux dire quelque chose?
J'ai juste oublié de dire qu'on dédiait cet événement, cette journée plus particulièrement, à Jean-Luc Parent, qui est en train de lutter pour s'en sortir. Donc on lui dédie très fortement cette journée. On pense bien à lui et on lui envoie toute notre énergie.
Ok. Voilà, je peux juste Jean-Luc, dire on est avec toi. Oui, Séverine, allons-y.
Je suis désolée, je n'ai pas de montre, en fait.
Et oui, m'en est beaucoup.
Je laisse la parole. Hein. J'avais
Merci.
Juste...
voilà. Non, simplement dire, on reviendra au cours du débat, parce que je voudrais quand même que tous ces gens qui nous écoutent puissent poser des questions. Mais faire le distinguo entre le livre et l'apparition sonore ou vocale du livre, ça va, hein, il n'y a pas de contradiction. Le livre peut être considéré aussi comme une partition, je veux dire. Donc il n'y a pas les poètes du livre d'un côté et les poètes de la performance de l'autre.
Bien sûr, non, c'est juste pour situer une action, en fait.
Parfait.
Je suis obligée de faire la
Donc nous allons passer à vous, Marie de Quatre-Barbes, qui est l'auteur chez Lanskin de plusieurs ouvrages, donc Les Pères Fouettards me hantent toujours, La vie moins une minute. Et Gommage de tête qui va paraître. Ouais. Il va paraître, d'accord. Et elle travaille en une revue sur le net qui s'appelle Remunette, où elle anime un dossier sur la poésie contemporaine scandinave. C'est à vous.
Merci. Eh bien, moi, je voulais brièvement peut-être évoquer ma propre expérience et puis revenir aussi... Plus précisément, sur la fabrique, puisque j'ai eu la chance, grâce à Séverine, de participer à une fabrique avec un groupe de pop, mais j'y reviendrai. Mais évoquer simplement mon parcours très... En fait, moi, quand j'ai commencé à lire mes poèmes, mes textes publiquement au moment où j'ai publié mon premier livre aux éditions Lanskin, donc il s'agissait des Pères Fouettards me hantent toujours, et j'ai été immédiatement confrontée à une forme de difficulté qui était de faire sortir en quelque sorte le livre de son murmure, quand bien même d'ailleurs il y avait une présence de l'oralité assez forte dans ce texte, ça me posait un certain nombre de problèmes techniques, en fait, de porter ce livre par ma voix à travers des lectures, etc. Et il a fallu que je trouve, que je trouve des tactiques liées aussi au fait que j'ai une voix qui porte peu. Enfin, c'est des questions matérielles et très concrètes qui se sont posées. Et puis, bon, progressivement, je me suis mise aussi à lire des textes publiquement que je n'avais pas encore publiés, et donc qui étaient des textes souvent en cours et en travail, qui n'étaient pas encore fixés. Et tout d'un coup, les choses se sont déplacées. Et encore une fois, lié à des choses assez concrètes, à savoir que tout d'un coup, je ne lisais plus à l'intérieur d'un livre, mais je lisais sur des pages volantes. Et puis, j'avais tout d'un coup envie de me mettre debout. Et en étant debout, je me suis progressivement rendu compte que mon corps bougeait lorsque je lisais. Et que d'ailleurs, de temps en temps, ça suscitait des réactions de la part du public qui pouvait d'ailleurs être parfois gêné par ces mouvements. J'ai eu d'ailleurs quelques malheureuses expériences. Un monsieur qui était assez scandalisé du fait que mon corps bougeait. Ça m'a donné envie de bouger encore plus, évidemment. Et donc tout ça pour dire que progressivement, j'ai eu cette tout d'un coup conscience de l'espace relationnel qui existait avec les gens qui les auditeurs au moment où je me suis mise à lire publiquement des textes qui n'étaient pas tout à fait finis et progressivement que cet espace de relationnel devienne aussi un espace de travail partagé pour moi, pour le public qui était sollicité de manière plus active et pour le texte qui était totalement en travail. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que mon rapport à la lecture s'est déplacé. Disons, ce n'est plus le livre que je lis, mais c'est plutôt la lecture qui fait le livre, in fine. Et je pense que il y a un vrai renversement qui s'opère et qui s'accompagne d'un plaisir aussi de la lecture publique. Et aussi de choses qui viennent rentrer dans le livre et qui peuvent être, par exemple, la question gestuelle, notamment. Premier point. Et enfin, donc sur ce qui s'est produit grâce à Séverine, donc il s'agit effectivement, comme elle le rappelait, de constituer des duos entre des poètes et des musiciens. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec un groupe de musique qui s'appelle Super Bravo et qui est constitué en groupe, qui a l'habitude de répéter collectivement. Et là, c'est un autre espace qui s'est ouvert à moi, c'est l'espace de la répétition, la répétition du groupe. Et quand je fais des lectures, je répète, mais je suis seule. Je suis seule face à ma voix, pas spécialement face à mon miroir, mais bon, en tout cas, c'est quand même un peu... C'est un face-à-face avec soi-même. Et là, tout d'un coup, dans l'espace de la répétition avec le groupe et avec des gens qui se connaissent, tout d'un coup, l'écoute est modifiée puisqu'on ne se contente pas de s'écouter soi-même. On écoute les autres et on écoute plus d'ailleurs les autres que soi. Et ça a été aussi un nouveau déplacement dans la pratique et qui ensuite aussi se traduit évidemment scéniquement différemment. Donc, en tout cas, dans ma... petite expérience personnelle, les enjeux scéniques et de performativité, de performance du texte se situent vraiment à cet endroit-là, dans la manière dont tout d'un coup l'espace relationnel pénètre à l'intérieur de l'écriture et vient l'alimenter et l'animer. Et évidemment, il y a des questions directement corporelles, gestuelles. Et plus largement, ça peut aussi être des choses qui sont dans quelque chose qui va... Moi, par exemple, ça m'a permis d'assumer le fait que ma voix était faible. Je n'ai pas une grosse voix. Et puis que ça pouvait... Voilà, maintenant, je parle au micro lorsque je fais une lecture. Et ça crée aussi, tout d'un coup, une possibilité pour une petite voix de se dire autrement. Voilà.
Merci, Marie. Donc, nous allons passer la parole à Lily Frick, qui est une philosophe de Montpellier à l'origine, qui a fait un tabac avec un polygramme qui s'appelait La 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 La, choc du monde de la musique.
La La La.
Voilà, La La La.
J'avais déjà le sens du simple. Ça suffit, La La La, pour dire chanson.
C'est vrai ?
Ben oui. Ouais.
La 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 La, ça ne vous va pas ?
Moi, ça m'a suffi, en fait, pour dire ce que je voulais faire dans cet album. La La La, c'est tout. Et je ne sais pas si... Oui, j'ai fait des études, mais j'ai fait des études de philosophie comme on fait autre chose, parce que j'avais une vocation sans contenu. Et puis, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je déteste le mot poésie. Parce que le mot poésie ne dit pas... Il embrouille, on est tous en difficulté. Et on ne dit pas
veut. Non, je ne suis pas en difficulté avec le mot poésie. Je suis très à l'aise avec le mot poésie.
Bon, ben moi non. Eh ben, vous allez me dire pourquoi vous êtes à l'aise avec le mot poésie. Et moi, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas à l'aise avec le mot poésie.
Je vous écoute.
Non, je vous écoute.
Moi, je suis à l'aise parce que la poésie est une chose qui est aujourd'hui disparue des médias, disparue de tout ce qui concerne le style de vie. Et que donc, il est important, comme on est résistant jadis, d'être poète. Et si on est poète, on fait et on travaille et on est dans une discipline qui s'appelle la poésie, ce dont je suis. Victor Hugo a eu cette phrase absolument magnifique... Moi qui ai aujourd'hui 75 ans, c'est bien d'être vieux parce qu'on a vécu tous les âges. Mais à tous les âges de ma vie, depuis que je suis né, j'ai toujours été poète et j'ai toujours été à l'aise dans la poésie, même si de temps en temps ça pose des problèmes graves.
Oui. Moi je ne suis pas à l'aise avec le mot poésie à cause de ce qui traîne dans le mot poésie qui n'est pas la poésie. On est bien d'accord. Je ne suis pas tout à fait stupide.
Donc, ça.
Non, mais moi simplement, je tiens à être précise. C'est que c'est vraiment à cause de ça. Et ce qui traîne dans le mot poésie, fait que la poésie traîne par terre. Et ça, c'est emmerdant. Parce que là, on est là avec le mot scène, on s'en fout. La poésie est partout, vous le savez très bien. Et ce que je n'aime pas dans la poésie, c'est qu'elle a l'air simplement de naître dans le livre. Or, le livre, c'est déjà une contrainte technique. Et justement, ce que je veux dire, moi, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'arrivée des nouvelles technologies. Et pour moi, les nouvelles technologies, moi qui ne suis pas technicienne, moi qui ai une difficulté d'être totale et qui ne s'arrange pas, les nouvelles technologies m'ont justement permis de faire des choses que je sentais sans savoir les faire. Parce que la poésie, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire vivre. Tout à l'heure, Vincent a demandé, il a dédié ce moment-là à quelqu'un qui s'appelle Parent.
Jean-Luc Parent.
Qui est entre la vie et la mort. La poésie est entre la vie et la mort. Et elle y est bien. Parce que si on est poète entre la vie et la mort, on y est debout. Vous comprenez ?
Très bien.
Or, dans le livre, on est couché, on est rangé. C'est pas les mots de la poésie, c'est les mots du support de la poésie. Il faut faire cette différence. Quand on fait cette différence, on n'est pas étonné de voir la poésie sur scène, de la voir se mettre à quatre pattes, de la voir faire des films. Vous comprenez ?
Mais ça n'étonne plus personne de la voir partout. Hein.
Non.
Aujourd'hui, il n'y a pas un poète contemporain qui pourrait se contenter du livre. Ça ne veut pas dire que le livre n'existe pas.
D'accord, mais pourquoi contemporain ? Pourquoi vous dites contemporain ?
Parce que vivant, alors, si vous préférez.
Parce que l'outil, parce qu'il y a ces nouvelles technologies, ce qu'on appelle contemporain, il ne faut pas confondre l'outil avec la chose.
Vous voyez, on
n'est pas contemporain parce qu'on utilise un ordinateur. De toute façon, ce qui est contemporain et ce qui est problématique dans tout, dans la nouvelle technologie, c'est l'utilisation de la technologie. On peut utiliser la technologie comme un ancêtre, c'est-à-dire en faisant disparaître la liberté. C'est ça la difficulté des nouvelles technologies, c'est que peut-être il y a un abus technique de la technologie. Parce que si on utilise comme un poète, c'est-à-dire si on utilise la technologie sans savoir, il n'y a pas de problème. Et simplement, et je termine là-dessus, c'est que moi, la poésie m'a permis d'être là, debout devant vous. Autrement, je ne serais pas debout, je serais couchée quelque part et je serais peut-être dans un hôpital psychiatrique en train d'essayer de dire que j'existe à des gens qui, de toute façon, ne le comprendraient pas. Et en le disant dehors que j'existe, j'espère que vous le comprenez. Voilà, c'est ça la poésie.
Merci Lydie. Non, nous allons écouter maintenant Jacques Robottier. Jacques Robottier, c'est comme le disait un très grand poète italien, Adriano Spartola, qui a fait un livre théorique magnifique qui s'appelle La poésie totale. C'est un poète total. Il est en effet poète, il écrit du théâtre, il est musicien et il fait des spectacles de toutes sortes. Voilà, Jacques Robottier, j'aimerais bien savoir ce que ça représente pour toi, être en scène, te mettre en scène, mettre ta poésie en scène.
Oula, je vais avoir beaucoup de mal à dire ça, parce que on est tous dans le même cas, c'est en cherchant voilà, qu'on essaie de définir pourquoi on le fait en réalité. En fait, si je vois le parcours, bon, on est à un certain âge maintenant. À une époque, j'ai le sentiment maintenant de faire partie d'un courant qui est majoritaire et ça m'embête beaucoup. Mais, si vous voulez, à l'époque où Julien et bien d'autres croisaient la poésie avec la performance, avec la scène, la faisaient sortir du livre, eh bien c'était très minoritaire en réalité. Voilà, et c'était mal vu de la poésie dominante, on pourrait dire, enfin celle qui était reconnue officiellement. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est presque le courant majoritaire, et ça me donne presque envie de faire l'inverse et de retourner dans le bouquin. C'est peut-être un peu provocant, mais voilà. Enfin, ça me gêne de faire partie d'un courant majoritaire, en fait. Voilà. Bon, alors, je suis content d'être venu parce que ça m'a amené à m'interroger, à me demander pourquoi j'avais peut-être pas réussi à me concentrer sur un seul domaine, mais à être réduit à les croiser comme ça. Et je me suis dit, au fond, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles on écrit, pour faire plaisir à sa maman peut-être, ou pour avoir son nom en 2078 dans l'encyclopédie de la poésie contemporaine du 21e siècle que publiera certainement Roland Chopard, je sais pas. Mais bon, il y a une autre raison, c'est moi j'ai le sentiment de chercher au fond un hyper-réalisme. Voilà. C'est, si vous voulez. Et la réalité, en fait, la réalité de la pensée, c'est que c'est du chaos, pour moi. Enfin, si je m'interroge vraiment, c'est ça. C'est du chaos, c'est-à-dire qu'on ne pense pas uniquement avec des mots, on pense avec des sensations, il y a des couches de pensée de nature très différente qui se croisent, qui sont faites de regrets, qui sont tournées vers le passé, vers l'avenir, de désirs, de tas de choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Ce chaos intérieur fait reflet au chaos extérieur du monde où on maîtrise encore moins les choses et où c'est encore plus le bordel. Voilà. Et donc, comment rendre, être réaliste, ça ne peut pas être dans la raison pure, ça ne peut pas non plus être dans la rationalité, ça ne peut pas non plus être dans le roman bien conduit, bien ficelé, parce que ça n'existe pas dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc la réalité, être dans la réalité d'un poème ou d'une œuvre d'art, c'est forcément être dans, pas pour moi, hein, je parle que pour moi, c'est forcément être dans le chaos et dans l'espèce de désir de restituer comme ça par un miroir tendu avec plein de formes différentes, avec plein de disciplines différentes, des sons, des mots, des silences, des espaces, des images. Voilà, d'essayer de restituer en fait en quelque sorte de tendre un miroir pour restituer une part de notre conscience à tous qui fonctionne de cette façon-là. Voilà, je crois qu'au fond du fond, c'est ça mon truc. Voilà.
Merci vraiment. Bon, Franck Doyen, il organise un festival en Alsace qui s'appelle Poema, qui est un festival très ouvert, très très bien fait, que j'aime beaucoup, et qui a une vie vraiment tenace, dynamique, et qui essaie justement de restituer cette poésie dont nous parlons tous avec nos différences là à l'instant. Sinon, il a publié plein de livres, chez Ancrage, à l'atelier Lagneau, au dernier Télégramme. Et alors, c'est toi, quoi, la poésie en scène ?
Donc, assez rapidement, voilà, moi, le rapport à la scène, mon rapport à la scène, en tout cas, a évolué, voilà. Parce que mon écriture a évolué. Voilà, en tant qu'auteur, j'ai eu, on va dire, des velléités à faire des choses sautillantes qui pouvaient peut-être permettre de faire, on va dire, des lectures performées. Voilà. Actuellement, c'est plus du tout le cas. J'ai l'impression d'écrire pour des choses qui sont bien sur la page. Voilà. C'est super rapide ce que je viens de dire. Mais bizarrement, et depuis que j'ai pris conscience de ça et que je vois ça à l'œuvre, en tout cas dans mon écriture, je me rends compte que j'ai aussi envie de bosser cette matière-là en la confrontant à d'autres matières artistiques, d'où des travaux, des expérimentations avec Sandrine Gironde en improvisation vocale. Sandrine Gironde qui est improvisatrice vocale, ou aussi avec une danseuse, Aurore Gruel, de danse contemporaine. Et là, pour le coup, ces objets qui sont fabriqués, donc au sein du duo Passang avec Sandrine Gironde, là c'est plutôt des pièces sonores, c'est plutôt le côté sonore. Donc effectivement là il y a une logique à ce que ça aille sur de la scène ou en tout cas face à un public comme ça. Avec Aurore la danseuse, c'est plutôt un aspect plastique, plutôt une pièce plastique finalement qui est fabriquée certainement. Voilà. Mais autrement pour le reste, en tant qu'auteur, voilà, moi je trouve que ça a vraiment de la place, ça a de la place. Ce que j'écris a de la place sur la page. Pour l'instant, enfin maintenant, demain, je sais pas, on verra, qu'importe, c'est pas ça. C'est pas ça qui est important, en tout cas. C'est d'être à peu près, ouais, de se sentir à peu près juste par rapport à ce qu'on fabrique, la matière qu'on fabrique, ce truc-là. Et oui, comme disait Julien, je suis coordinateur avec Sandrine Gironde, je vais la nommer beaucoup, je crois. D'un truc qui s'appelle Poema, donc qui a lieu dans tout le Grand Est, avec une base en Lorraine, en fait, mais aussi en Alsace et en Champagne-Ardenne. C'est un festival. On invite des auteurs de poésie. Là-bas, c'est ça. Hein, on invite des auteurs. Là, cette année, on a invité 54 auteurs de poésie. Voilà. À venir, donc évidemment, sur quelque chose qui ressemble à de la scène. Alors, c'est en tout cas rencontre public. À venir rencontrer un public, ou en tout cas que le public les rencontre. Voilà. Et pour le coup, effectivement, on peut se trouver à inviter qui un poète sonore, qui un performeur, qui quelqu'un qui travaille vraiment presque traditionnellement pour la page, etc., etc., des éditeurs, etc., etc. Donc on est à cet endroit-là. Et pour le sujet un petit peu qui autour duquel on est en train de chercher des choses, là, ce qui est clair, c'est que... porter à la vue et au rapport charnel, en tout cas, les écritures, avec tout ça dedans, hein, c'est super judicieux, c'est super intéressant. Les gens viennent, le public vient, il n'y a vraiment pas de problème. Il y en a peut-être qui partent en courant, mais d'autres non. Il faut vraiment croire, en tout cas, en ça.
Merci Franck. Avant de vous passer la parole, il y a quand même une question que je me pose sans arrêt quand je vous écoute les uns et les autres. C'est qu'en fait, on a réussi quand même à montrer que le livre pouvait être considéré soit comme une partition, c'est-à-dire une origine, soit comme un détritus, c'est-à-dire une fin, une espèce de pourriture. Et on a repris par rapport à ça notre intégralité corporelle, c'est-à-dire qu'on a réussi à remettre la poésie en voix, en gestes, comment on la bouge, comment on l'articule, comment on la gesticule, comment on la prononce. La question que je me pose, je vous la pose à vous parce que moi, je n'ai pas la réponse quant à moi, c'est pourquoi on a aussi besoin d'un coup de mettre en place des musiciens, des danseurs et d'autres disciplines que nous ne faisons pas nous-mêmes. C'est-à-dire pourquoi on a besoin d'un coup, dans cet art qui est quand même assez individualiste, pour ne pas dire très personnel, pourquoi d'un coup on a besoin de prendre des disciplines autres jouées par d'autres personnes. Jacques, à toi la réponse. Non ? Franck, Lily.
Allô ? Oui. Moi, je peux dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre que ce soit une réponse à ce que vous dites. Moi, je n'ai pas besoin d'un danseur, de ci, de ça. Par contre, je peux avoir envie qu'il y ait quelque chose d'autre que moi qui s'exprime. Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre un musicien, un peintre, etc. Moi, je ne la fais pas, la différence, les enfants non plus. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de faire l'expérience de l'immatérialité de l'œuvre. Vous comprenez ? C'est extraordinaire, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les nouvelles technologies, qu'on va perdre notre âme, etc. Mais pas du tout. C'est un accès direct à l'essentiel. Et donc... Moi, je ne fais pas de différence entre un danseur, un peintre, un poète. Je la fais si, par exemple, je suis à l'école, à la faculté, si je passe un examen, si je ne veux pas qu'on me jette tout de suite dehors. Je mens, quoi. Je fais comme les autres. Mais si parfois je ne veux pas tricher, je fais de la poésie. Mais la plupart du temps, je triche, je suis comme les autres, et donc je fais des différences, et puis alors je me donne l'impression, allez, viens, toi, t'es différent, viens avec moi, moi, je suis bonne, etc., alors que c'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est du commerce, c'est de l'image, c'est du marketing, mais en fait, tout le monde fait la même chose, et tout le monde veut être devant. Quand, justement, je me disais, ces états généraux, Vincent, il parle de la visibilité du poème. Or, quand le poète est... Qu'est-ce que ça veut dire pour un poète d'être visible ? Ça veut dire qu'il va donner accès à ce qui, dans le poème, est le plus important, c'est-à-dire l'invisible. Parce que le visible, on n'a pas besoin de la poésie pour se prendre un mur. On a besoin de la poésie pour le traverser. Vous comprenez ça ? Et c'est tout con. Et je pense que c'est... Des fois, alors pourquoi il y a un danseur, il y a un musicien, etc. Mais qui dit qu'il y a un danseur, il y a un musicien, etc. C'est depuis la petite enfance à l'école, on vous dit, si vous dites merde ou si vous dites bleu avec un crayon, vous êtes écrivain. Si vous le dites avec de la peinture, vous êtes peintre. Et vous êtes différent. Et vous allez... Toi, tu vas là, toi, tu vas là. C'est ça, le problème. Il n'est pas ailleurs que dans cette chose-là. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est...
C'était pas tout à fait ma demande,
non.
Jacques.
Oui. Moi, je veux bien répondre à ta question. Voilà, en fait, moi, c'est vrai que j'ai pratiqué pas mal la lecture concert, par exemple, ou la lecture performance. Comme j'étais compositeur de musique, donc j'écrivais des pièces aussi d'ordre théâtre musical, on peut dire, à des musiciens avec qui je croisais en quelque sorte le plateau. mais il jouait mes pièces au début. Et maintenant, j'aime beaucoup en fait inviter des musiciens qui sont improvisateurs. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est simplement la sensation sur le plateau, quoi. C'est le plaisir ou de prendre le risque en fait d'être dans le présent, parce que la présence, une autre présence sur une scène, vous remet fondamentalement en question. Vous n'êtes pas en train de restituer ce que vous avez écrit, donc de restituer quelque chose qui est de l'ordre du passé. Alors, mais vous n'êtes pas non plus dans la performance où vous inventez ce que vous faites dans le présent, mais seul, en contrôlant absolument tout, en quelque sorte, tout en étant en éveil sur le présent, bien sûr. Mais vous êtes soumis forcément à des perturbations ou à des accidents qui sont forcément heureux, puisqu'ils créent des croisements, qui créent du risque, qui créent de la déstabilité. Et donc, moi, ça m'a amené, en fait, à improviser de plus en plus sur le plateau la poésie, à croiser des choses écrites avec des choses improvisées, comme les musiciens le faisaient eux-mêmes, en quelque sorte, après, je ne dis pas égalité avec eux, mais dans le même registre. Voilà.
Mais c'est exactement ça. Séverine, vous qui faites des ateliers avec la chanson.
En fait, moi, j'ai personnellement aucun besoin d'avoir à mes côtés des chanteurs ou des musiciens ou d'autres artistes ou des danseurs. Je pense que moi, le rapport à la scène, c'est tout à l'heure, dans ce que j'ai développé peut-être trop longuement, c'était juste la nécessité d'une rencontre, hein, de faire que la poésie rencontre les gens qui peuvent s'y intéresser. En fait, et la scène pour moi est un espace qui peut être colonisé dans ce but-là, quoi. C'est pas plus compliqué. Aller après, ensuite vers d'autres, voilà, faire ça avec des musiciens ou avec des danseurs, pour moi, c'est juste le moyen de que la rencontre soit élargie. Mais c'est, voilà.
Ok, merci. Donc, on va vous donner la parole. Simplement, encore une petite question. Excusez-moi d'abuser, mais le rapport entre la psychanalyse et la poésie, pour vous qui avez fait des études poussées de psychanalyse, ça vous apporte, ça vous retranche? Ça fait quoi la psychanalyse quand on travaille comme poète?
La question. le rapport de la psychanalyse et de la poésie, je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est la question de la langue, simplement. Enfin, dans la psychanalyse, on est vraiment dans la question de la langue, du signifie. Enfin, après, ça dépend où on se positionne aussi en psychanalyse, mais il y a un lien évident. Enfin, pendant très longtemps, je n'ai lu presque que des textes de psychanalyse que j'abordais vraiment d'un point de vue poétique, je pense, quoi. Après, je ne sais pas ce que ça... Enfin, c'est des questions que je ne me pose pas et auxquelles je ne peux pas répondre. Le lien.
C'est quand même bon. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a un micro là-bas, Yves, qui se balade pour des gens qui auraient des questions à poser? Sinon, je vous prête le mien, j'écrirai très fort en répondant.
Qui veut parler?
Personne n'a des questions à poser.
C'est juste voir la différence entre la poésie sonore et la performance. Est-ce qu'il y a une subtilité?
La poésie sonore est quoi, pardon?
La performance.
Bon, je vais plonger. Donc la poésie sonore, c'est un mouvement qui, comme son nom l'indique, est parfaitement sonore. C'est-à-dire, grosso modo, il travaille que sur la sonorité, et au départ essentiellement sur la voix et la façon dont on peut articuler ou désarticuler le langage poétique, et ensuite, avec l'arrivée des machines, comment il peut travailler en dialogue, d'abord avec le magnétophone et aujourd'hui avec tous les outils modernes de l'électronique. Voilà, ça c'est pour la poésie sonore. La poésie performance, au lieu de mettre en considération et sur le plateau simplement l'articulation des mots par la voix et par le corps, elle va mettre tout en place. C'est-à-dire qu'elle va jouer sur la totalité de l'expression possible d'un poète en action. Aussi bien la voix, comme les poètes sonores, mais également comment ce poème va se modifier par rapport à la gestualité, par rapport au corps et par rapport à tout ça.
Si je dis d'un coup,
c'est pas pareil que si je dis assis tranquillement. Donc on voit bien qu'il y a toute une syntaxe qui peut s'établir par rapport à la façon dont le poème va bouger. Voilà les grandes différences. Après, il y a des différences historiques. C'est-à-dire que la poésie sonore, elle est née des mouvements qu'on va appeler les avant-gardes historiques, futurisme, dada, jusqu'à Cobra. Alors que la performance est beaucoup plus récente, elle est née soit par rapport aux arts plastiques avec le pop art, soit avec la poésie sonore et la poésie visuelle dans les années 60 ici en Europe, avec des gens comme Bernard Hetzig, Adriano Spatola et quelques autres qui ont survécu à ce désastre. Voilà la différence. Mais si vous avez ajouté, mesdames, messieurs, je suis à vos dispositions. Et le public aussi. D'autres questions ?
Je veux bien répondre à... La question, c'était c'est quoi la poésie, c'est ça ? J'ai bien entendu ?
Non, la question qui a été posée, c'est là, ici, là ?
Oui.
Non, la table, c'est la poésie en scène.
Ah oui, en scène, oui. C'est à ça que je voulais répondre.
Non, mais la question qui a été posée par madame, c'était la différence entre la poésie sonore et la poésie performance.
Est-ce qu'un poème qui est vraiment fort a besoin d'un support dansé ou musical ou... Moi, il me semble que non.
Vous savez, j'ai fait un festival il y a très très longtemps, qui était à Tarascon, et il y avait un poète qui est, comme vous dites là, qui a besoin de rien tellement il est doué, qui s'appelait Louis-René Desforêts. Et on faisait une soirée de gala chaque année, on a fait passer comme ça Jerry Rothenberg, Azim Lucas, Maurice Roche et tant d'autres. Et quand est venu le tour de Louis-René Desforêts, il a dit « c'est hors de question que je lise, moi. Ma poésie, c'est secret, c'est intime. Il est hors de question que je lise ma poésie. » Donc je l'ai baratiné, ça a pris du temps, c'est un monsieur très lent, et moi je suis un peu nerveux. Mais pour une fois, j'étais calme, et lui aussi. Et finalement, au château de Tarascon, ce soir-là, il a lu. Il n'a jamais pu s'arrêter de lire par la suite. Il n'a jamais pu, jamais, jamais fait de l'écriture sans passer à la lecture orale après. Jamais. C'est une réponse.
Bonjour. Je voudrais réagir en écho à ce qu'a dit Jacques Robotier, qui m'a énormément touchée. Et j'ai l'impression qu'il a mis des mots sur quelque chose que je vis. Je suis à la fois comédienne, autrice de théâtre, metteuse en scène. J'ai commencé par mettre en scène des pantomimes où il n'y avait pas un mot. Puis les mots sont arrivés. Puis ensuite, les mots qui ont généré des sons, de la musique. On m'a dit que j'avais une écriture poétique. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et quand vous avez parlé du chaos, essayez de mettre en forme cet hyper-réalisme pour être au plus près de son chaos intérieur qui résonne avec le chaos extérieur du monde. Le chaos, c'est quand tous les sens sont tellement ébranlés que tous ils arrivent en même temps dans un... Et que arriver à mettre en forme tout ça nécessite justement de faire appel à autre chose que les mots sur du papier ou du corps ou de la musique ou de la couleur. Voilà.
Ce n'était pas tout à fait une question, mais Jacques.
Je peux réagir éventuellement, mais... ce que vous dites sur le chaos, oui, c'est tout à fait ça pour moi. Je crois qu'il y a une relation avec l'idée du présent, d'être dans le présent. Voilà, un de mes maîtres, c'est Isidore de Séville, 8e siècle. C'est une encyclopédie de calembour, son livre des étymologies, son encyclopédie en fait. Et il dit le présent, presence, quod praesensibus, le présent, c'est ce qui est près des sens. C'est un jeu de mots, mais je trouve que c'est profondément vrai. Et en fait, la recherche du présent se fait en quelque sorte par l'accumulation ou la mise en tension plutôt de toutes ces formes d'expression, de toutes ces couches de la pensée qui se télescopent, qui créent des courts-circuits, peut-être qui créent un court-circuit et qui fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la saturation ou du silence par la saturation qui fait qu'il y a, pour moi, une, une sortie du temps parce que il y a un télescopage de toutes ces disciplines et surtout de toutes ces couches de la pensée en même temps. Et donc, pour moi, je crois que c'est, enfin pour moi, hein, c'est vraiment ça, pour moi, l'essence profonde de ma recherche en poésie, quoi. C'est de sortir du temps, en quelque sorte, et d'accéder à un instant, voilà, ou un présent, ce qui est près d'essence, mais ce qui est en même temps instance, ce qui se tient, voilà, dedans, en plein dedans, on peut dire, voilà, debout.
Alors, bonjour. Moi, je voudrais m'adresser à Julien Blaise. On a dit que la poésie, c'était le corps. La poésie, c'est la voix. La poésie, c'est les mots. Ce sont les mots. Quand on a le corps, mais qu'il n'y a plus de voix et qu'il n'y a plus les mots, comment pourrait-on nommer cette forme qui reste quand même poétique. Si je parle en LSF, si je dis bonjour, je ne veux pas. C'est quoi ? Les poètes sourds, est-ce qu'ils sont toujours appelés poètes ? Ou est-ce que quelle est cette forme, donc, qui serait une forme de poésie où il n'y a pas à écouter ni à entendre, mais donner à voir et à partager ?
Bon, la poésie, c'est un langage, donc tu peux l'exprimer avec un langage des gestes ou avec le langage de ce que tu désires. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée au Japon. Donc j'étais à Hiroshima. Quand on visite le musée d'Hiroshima, on ne sort pas intact. On sort pour le restant de ses jours avec cette mémoire absolument insupportable de Hiroshima. Et donc encore aujourd'hui, quand je parle d'Hiroshima, j'ai les poils qui se dressent et je me sens pas très bien. Mais voilà, c'est une soirée à Hiroshima. Je viens de visiter le musée et le soir, nous avons organisé par Seiji Shimoda, un très beau festival, où je vais faire une chose que j'aime beaucoup, qui est une performance sur le chi, c'est-à-dire l'énergie pure. Comment, à force de respirer, je m'asphyxie, et au moment où je tombe dans l'évanouissement par l'asphyxie, plac, je jette un cri sur la, et en même temps, je fais un noyau d'écriture sur la toile. Voilà, c'est fini. Évidemment, c'était une fois un peu particulière, puisque là, c'était absolument terrible ce soir-là. Et descend des gradins une petite japonaise, un peu boulotte, avec une autre japonaise, un peu maigrichonne. Et la petite boulotte vient vers moi et me dit et je dis, je m'excuse, je ne parle pas du tout japonais. Et sa sœur, puisque l'autre, c'était sa sœur, un peu maigre, me dit, non, mais elle ne parle pas japonais. Ma sœur est sourde et muette et elle a eu vraiment l'impression d'entendre ce soir. Donc, si la poésie est... Elle passe.
Yves. Bonjour, j'ai une question très pratique, terre à terre. En fait, par rapport au statut du poète, est-ce qu'il y a eu dans vos parcours si différents un événement déclencheur où ça s'est passé progressivement ? Vous vous êtes dit, voilà, moi je suis celui ou celle qui travaille le langage, je suis poète, je me présente comme tel. Voilà, c'est la question.
Allez, on commence par Marie. Marie, à toi. Un élément déclencheur qui a dit « je suis poète ».
Non, l'élément déclencheur, c'est la lecture quand même, c'est la découverte de la poésie, quoi. Donc ça intervient tôt, quoi. Je vais dire des platitudes, mais c'est lire Rimbaud quand on est enfant, des choses comme ça. Voilà, c'est ça en fait. Et puis après, la question du statut... c'est jamais totalement posé en ces termes, en tout cas pour moi, et se pose en fait pas à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y ait pas des enjeux de statut et des enjeux sociaux qu'il faut prendre en compte et objectiver, bien sûr. Mais je ne le mélange pas avec mon travail d'écriture et ce que j'essaye de produire.
Lily.
Moi, c'est un peu particulier parce que je suis malvoyante, donc je n'ai pas lu pendant très longtemps. Je voulais pas être poète, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de lire, j'ai horreur des mots, j'ai horreur de toutes ces choses-là. Et en fait, pour continuer à être, en fait, c'est les mots qui m'ont aidée, et c'est les mots qui étaient là, et c'est les autres qui ont dit que ça voulait dire poète. Voilà, c'est du dehors de moi que ça s'est arrivé. Mais ça a été le diagnostic, poète. Voilà.
Franck.
Non, des éléments déclencheurs, non, évidemment non. Mais ouais, peut-être des prises de conscience à certains moments de la vie, des prises de conscience que cette activité-là, en tout cas, me structure, voire me contient. Mais en tout cas, au moins me structure et pour moi, donc, est nécessaire. Voilà, c'est tout.
Jacques ne veut pas le dire. Séverine ?
Moi, je peux faire une synthèse entre Lily et Marie, voilà. C'est-à-dire le diagnostic et puis en même temps la lecture. Depuis, mais pas d'élément déclencheur non plus, quelque chose de présent depuis.
Et toi, Julien, comment ça a commencé ?
Moi ? Mais je crois que c'est la haine des parents, en fait. Dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des textes contre mes parents, qui me battaient, c'était très injuste. Et donc, ce qui m'a vraiment intéressé, je savais à peine écrire, c'est dire du mal d'eux. Mais j'ai passé au moins un an de ma vie à dire que du mal de mes parents.
En fait, tu continues toujours ?
Qu'ils me pardonnent.
Tu continues encore, là ? Non,
non, non, ils sont morts maintenant. Non,
oui, mais ça n'empêche pas.
Oui, oui. Non, j'en dis plus. Je dis que du bien, maintenant. Et puis après, ça a été comme Jacques, c'est pour ça qu'il ne veut pas le dire, c'est qu'à cette époque-là, la nôtre, quand on disait à 13 ou 14 ans qu'on était poète, ça marchait avec les filles. Ça marchait.
Ben non, ça marche plus. Hein.
Ça marche plus du tout, hein.
Oui.
Ce n'était pas une question vraiment, mais c'est en rebondissement. La balle est retombée entre-temps, mais je vais essayer quand même, quand vous parliez de cette expérience avec une personne sourde et muette, ça m'a aussitôt fait penser à un moment où j'ai travaillé avec des enfants sourds et muets, mais là, c'était dans de la musique. Et j'ai expérimenté qu'en fait, ils pouvaient sentir la musique par la peau. Donc, en les mettant allongés sur un parquet, ils ressentaient la musique. Et une partie de l'équipe qui, elle, faisait de l'écriture, ou du moins de l'écriture spécifique aux sourds et muets, m'ont dit, quand même, ça pourrait être intéressant qu'on voit un petit peu comment on pourrait faire quelque chose ensemble. Et du coup, avec cette perception du son, du rythme qu'ils pouvaient percevoir, je mettais bien sûr dans ces cas-là des musiques différentes, des rythmes différents, il leur était demandé après de pouvoir en dire quelque chose par leur écriture, qui était alors, par la suite, traduite en mots que vous et moi pouvions lire. Donc c'est un petit peu comme quoi il y a vraiment une perception et il y a une façon de dire, quel que soit l'handicap.
Merci.
Oui, j'en profite pour vous renvoyer au programme de la périphérie, parce que le 16 juin, sur le parvis du Panthéon, nous organisons une périphérie précisément avec l'Institut des jeunes sourds de Paris, où des élèves de l'Institut vont donner à voir une écriture poétique qu'ils appellent grande iconicité, qui n'est ni la langue des signes ni du mime, mais une utilisation du langage corporel de façon à créer un univers poétique compréhensible par qui que ce soit. C'est le 16 juin devant le parvis du Panthéon à 14h30.
Merci Yves. Une question là, Yves, au premier rang, là-bas.
Bonjour. Alors, je ne suis pas sûre que c'est une question, mais vous dire que c'est très touchant. Ce que vous dites, alors vous, et vous, et l'ensemble, parce que nous étions là il y a 30 ans, et j'entends fort ce que dit Jacques Robotier sur l'officialité, le danger de l'officialité. Et je dirais que quand on travaille dans le domaine de l'écriture, de la langue, de la danse, de l'expression, on est en danger, dès qu'un travail est un peu connu, de faire le choix de rester couché et non pas de se mettre en avant ou de se montrer. Et à chaque nouveau travail, l'envie que ce travail soit porté et partagé et en même temps le refus. Effectivement, le mot poésie pose question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on n'est pas seulement dans un travail sur construire notre travail, on est aussi constamment dans un travail de faire bouger les frontières et donner à entendre le travail de ceux qu'on peut croiser et non pas être devant. Et cette question du devant est fondamentale pour qu'on puisse continuer à œuvrer. Et je suis très intéressée quand vous avez mentionné les études de psychanalyse. Effectivement, c'est encore une nouvelle limite à bouger, c'est qu'on peut lire des textes de psychanalystes de façon extrêmement poétique et de façon accessible. Et on peut aussi questionner la frontière du mot, du mouvement et du formel et de l'informel. Alors nous, nous travaillons beaucoup en jeunesse, qui est peu présente, sinon peut-être par esperluette un peu ici. Et c'est encore un autre domaine, c'est qu'on est vite par le travail avec des jeunes enfants ou par le travail théâtral en jeunesse, on est à nouveau vite acculé à des mondes de festivals jeunesse ou de... Alors qu'en fait, il se passe aussi des rencontres avec des poètes extrêmement importantes, et en particulier sur la question de la toute petite enfance et le tout début du langage. Et on a vraiment des gens qui se sont spécialisés dans ces domaines-là, sur cette recherche-là, et qui ont énormément de mal à se faire entendre parce qu'ils sont en jeunesse et en petite enfance. Donc, je pense que le gros du travail est vraiment de continuer à ouvrir et à ne pas spécifier sur la poésie, la jeunesse, le roman noir, le mot, le geste. J'aime beaucoup le terme d'improvisation. Non, votre collaboratrice, elle est improvisatrice vocale. Oui, c'est-à-dire, oui. Elle travaille dans l'improvisation uniquement.
Oui.
Parce que la question de la scène, pour moi, c'est même sur un texte qui a été écrit, de parvenir à le réimproviser. Et là, on touche à des questions du toucher et du corps, certainement. Enfin voilà, j'ai été aussi un peu longue, j'en suis désolée, mais merci pour ces échos qui donnent envie de poursuivre le travail, en fait, surtout.
Oui, Lily. Julien, est-ce que je peux dire quelque chose ?
Bien sûr.
Parce que ce que vous dites me permet de dire autre chose, et j'aurais oublié de dire quelque chose d'important pour moi. Jamais me serait venu à l'esprit de lire de la poésie. Je ne lis pas de poésie, je dis. Vous parlez de scène. Je n'ai jamais... C'est un ressenti que j'ai et je ne comprends pas justement les poètes que je vois qui lisent des textes qu'ils ont écrits. Et c'est ce que vous dites qui me permet de dire ça. Le minimum dans la langue, c'est le risque. Je prends le risque de perdre mes mots. Si je ne prends pas ce risque, je peux rien donner. Et ce que je veux simplement dire, si je fais ça, ce n'est pas parce que je suis malvoyante. Je le faisais avant et je suis certainement malvoyante. On ne sait pas ce que j'ai à cause de tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est parce que je sens moi. Et si un jour je peux en parler, je ne sais pas à qui, je ne sais pas où ça pourra se dire. C'est que de toute façon, pour moi, la poésie n'est pas dans la langue. Vous parlez de psychanalyse, etc., je connais bien malheureusement. Et j'ai bien entendu avec quoi ça pense, un psychanalyste, et ce qu'il fait dans la langue. J'ai aussi entendu Gerasim Luka, etc. Et je suis capable de repérer en tant que malade totale cette création est dans la langue. Moi, je ne suis pas dans la langue, je suis sortie de la langue, c'est du dehors de la langue que je rentre dedans. Et donc, la langue, j'ai aucune... je n'aime pas la langue. Et je ne suis pas là pour la servir. Vous comprenez ? Parce que je suis en difficulté et c'est elle qui va me sauver. Parce que la langue, c'est ambivalent. C'est à la fois quelque chose qui vous écrase, qui ne va pas vous permettre de dire, et en même temps, ça va vous délivrer. Et c'est dans cette difficulté-là que les enfants ne s'emmerdent pas à nommer. C'est pour ça que souvent, il y a des écrivains qui vont voir les autistes ou qui vont voir les malades mentaux. Pourquoi ? Parce que c'est tout bénef. Ils ne s'emmerdent pas avec les lois de la langue. Et donc, il y a des espèces de hasards poétiques qui ne sont pas des hasards, qui sont juste de l'enfance, de la vraie. Et l'enfance, la vraie, est toujours en difficulté. Donc, ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Et cette difficulté, voilà, là j'aime bien parce que on dit des choses, je prends le risque aussi de pas d'être con quoi, de ou de pas vous intéresser. Et c'est ça que j'aime, parce que si simplement je lis, moi je sais très bien lire, hein, mais jamais je me permettrais de faire ça. Et moi c'est une question que je pose à toute la poésie, parce que vous parlez de scène, vous parlez d'improvisation, mais de toute façon, bien évidemment, je vais pas me mettre à réciter un truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la question que je pose. La performance, elle est où? Voilà. Moi, je suis en difficulté dans la langue, vraiment, parce que je suis à l'extérieur de la langue. Et un livre, je ne sais jamais, mais vraiment, si je vais pouvoir l'écrire. Et j'en écris pas beaucoup. Moi, j'écris le moins possible. Vous voyez? Bon, voilà, c'est tout. J'exprime ça comme ça. Non, je ne veux pas qu'on dise ça. C'est juste que j'ai besoin de dire quelque chose vraiment que je sens. Je suis là. Voilà. Voilà.
Merci. Nous, c'est qui? Excusez-moi, vous n'avez pas été assez longue, madame du premier rang, bleu marine. Nous, c'est qui? Nous, c'est qui?
Nous, vous voulez dire par rapport au travail?
Vous parliez au nom de quoi?
En jeunesse. Au nom de ma voisine.
C'est qui votre voisine?
Marie-Florence Serret.
Bonjour Marie-Florence. Et vous, c'est qui? Bon, vous voulez pas dire pourquoi vous, de qui vous parlez, de quoi vous parlez? Et d'où vous parlez, comme on disait jadis?
D'accord. Vous pouvez préciser votre question?
Tout ce que vous avez dit était absolument pertinent. Et dans cette pertinence qui m'a énormément séduit, vous avez dit à maintes reprises, nous, nanananana.
Ah oui,
nous.
D'accord. Oui, j'évoquais en fait. Alors, moi, je suis Nadine Brincombe, je suis auteure en jeunesse et en théâtre. Et en Esperluette et en non-frontalier. Et je travaille beaucoup sur le mouvement, la danse, depuis très longtemps. Mais effectivement, la question, elle est là. Quoi. C'est qu'il y a 30 ans, et en même temps, au bout de 30 ans, on est toujours dans cet endroit de recherche et pas ailleurs. Et donc, le nous, c'est un peu, effectivement, quand même, peut-être pour moi, les auteurs que j'ai pu croiser dans le domaine de la jeunesse, qui sont des gens qui cherchent, les gens que j'ai pu rencontrer il y a 30 ans ici, des gens comme Yves Martin, comme Alain Malherbe, des gens qui sont décédés depuis, Fankin Diem, Jean-Pascal Dubos, des gens qui ont fait leur parcours ou pas, et tous ces croisements, voilà,
je des vous gens qui ont cherché. D'autres questions?
Oui, je vais préciser encore une chose. Sur cette question poésie et jeunesse, le marché se l'est posé, bien sûr, dans le cadre des états généraux. Et nous avons organisé, je crois, pour la première fois dans l'histoire du marché, vendredi matin, une table ronde poésie et jeunesse avec différents éditeurs, Motus et d'autres amis. Effectivement, ils ne sont pas très nombreux sur le marché, mais je vous promets que l'an prochain, les choses auront peut-être un peu bougé.
Merci. Oui, mais c'est très bien, mais ça n'était pas une demande. C'est que ça se passe comme ça. Quand on fait les choses, ça se passe comme ça. Et voilà. Mais c'est bien.
Je vous remercie. Encore une question. Est-ce que quelqu'un à la tribune, comme on dit, a envie de faire une lecture, une poésie, une performance, une petite action pour finir en beauté? Non, pas moi. Non. Moi, je suis modérateur. Comment c'est marqué là? Hein?
Tu prends la température.
Température. C'est que ça me ressemble tout à fait d'être modéré et tempéré.
Fait quelque chose d'intempestif.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie très très chaleureusement de votre nombre, de votre accueil. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Lily, merci Franck, merci Jacques, merci Séverine. Merci le marché de la poésie et les états généraux.
Ou généreux, on ne sait pas. Merci Julien. À 15h30, nous allons faire...